Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Yoga et nous pour cette deuxième saison. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je donne la parole à des profs de yoga passionnés pour explorer avec eux comment le yoga infuse notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série où Laura Harley, qui est prof de yoga et formatrice spécialisée dans la philosophie du yoga, va nous raconter de jolies histoires. Elle nous parle des récits fondateurs de la mythologie hindouiste et de comment ils peuvent éclairer et nous permettre de donner du sens à certaines postures qu'on pratique régulièrement sur le tapis. On va notamment parler du sage Vashishtha ou de l'aigle Garuda. Bonne écoute! Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode hors série dans lequel tu vas nous raconter de belles histoires.
Bonjour Laura, écoute, ravie d'être là avec toi et avec tes auditeurs pour raconter des histoires qui est vraiment une des choses que je préfère dans ce métier.
Super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire à toi déjà et ta rencontre avec le yoga ?
Oui, alors mon histoire personnelle, elle est peut-être moins intéressante et moins magique que toutes ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, mais en général, qu'est-ce qu'on peut dire sur mon chemin de yoga ? Je suis professeure de yoga, actuellement j'habite à Toulouse, mais je suis beaucoup dans les cours en ligne, programmes en ligne, etc. Et je me spécialise dans l'histoire et les philosophies du yoga, c'est vraiment ce qui me passionne le plus au sein du monde du yoga. Et j'ai rencontré le yoga il y a déjà un petit moment, il y a déjà, je pense que ça fait 7 ans à peu près, suite à une blessure. Voilà, parce qu'avant je courais beaucoup et à un moment où je ne pouvais pas justement faire ça, j'ai rencontré la pratique de yoga physique, posturale. Et très vite quand j'ai voulu du coup me former, des années après avoir commencé ma pratique en tant que prof, j'étais complètement fascinée par justement la partie philosophie et histoire du yoga. Donc je savais que comme j'étais déjà personnellement pas une personne super souple et mon corps n'est pas forcément le corps pour faire des choses très acrobatiques ou des postures qui vont trop loin physiquement, en tout cas pour moi. Je savais que je voulais avant tout transmettre ma passion justement pour les philosophies du yoga et l'histoire du yoga.
D'accord, et j'entends un petit accent dans ta voix, tu es de quelle origine ?
Oui, alors ça ne vous sera pas échappé. Donc moi, je suis mexicaine. Je suis née et j'ai grandi au Mexique. Je suis arrivée en France après le bac, pour faire une prépa. Donc rien à voir au départ avec ce que je fais maintenant. Mais oui, donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande un petit peu de patience si vous m'écoutez, parce que c'est vrai que parfois, il y a encore le petit accent qui est là.
Non, t'inquiète pas, ça gêne pas, on comprend très bien. Et du coup, j'imagine que donc, c'est en France que tu t'es formée au yoga. Et alors pour toi, qu'est-ce qui t'a plu autant dans la philosophie du yoga et pourquoi c'est important de relier la pratique, notamment la pratique posturale, à toutes les histoires, la mythologie qu'il y a autour du yoga ? Qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans ?
Oui, alors, et effectivement, c'est... j'ai fait ma formation en France. J'ai suivi une formation en plus en anglais. Mais quand même à Paris pendant 6 mois. Et je savais très vite que je voulais partager ma passion pour l'histoire et les philosophies du yoga, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui distingue la pratique du yoga à d'autres activités qui sont plus physiques, on va dire, que le yoga, ou qui s'intéressent plus à l'aspect physique. Je trouve que ce qui est fascinant, c'est de voir que le yoga, déjà au départ, quand on voit l'histoire, quand on va loin dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec le côté physique. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive bien après dans l'histoire. En tout cas, le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui est un produit finalement de mélange de culture, de façon de voir le monde. Et justement, je trouve que malgré tout, malgré le fait que ça a évolué à travers les siècles et qu'aujourd'hui, ça ne ressemble peut-être pas au yoga qu'on retrouve dans les textes fondateurs des philosophies du yoga, il y a quand même dans la pratique physique énormément de... On retrouve les valeurs, on retrouve ce côté où c'est infusé. Le yoga dans la façon où il est enseigné aujourd'hui. Par exemple, une des choses qui me fascinait les toutes premières fois quand je pratiquais le yoga, c'était ce moment de relaxation finale. Ce qui est quand même incroyable parce que c'est un espace où on est la plupart du temps complètement dans le silence, complètement dans l'immobilité. Et alors que c'est a priori, ou en tout cas c'est comme ça que je le voyais au tout début, une pratique qui est physique, qui nous demande tout d'un coup d'être dans le silence total et dans l'immobilité totale. Et donc du coup, quand j'ai eu en plus la chance d'avoir des professeurs de yoga qui étaient très inspirés par tout ce côté philosophique et historique, donc forcément ça m'a tout de suite attirée, cette autre dimension qu'on peut retrouver dans les philosophies du yoga. Et puis à côté, pour la partie histoire, je dirais que ça, c'est aussi un mélange de plein de choses. Dans mon histoire personnelle, on va dire, moi depuis que je suis petite, on a une tradition familiale qui fait que nous, on n'allait pas à la messe tous les dimanches, on allait au cinéma. Donc depuis que je suis toute petite, je suis bercée par les histoires et j'adore qu'on me raconte des histoires et j'apprends à travers les histoires et j'adore les univers. Voilà, si on va vraiment dans la pop culture, hein, j'adore par exemple, je suis fan de Star Wars, je suis fan de du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, du MCU. Enfin voilà, j'ai toujours été fascinée par les histoires et tout ce qu'elles peuvent nous transmettre. Et quand j'ai appris que dans le monde du yoga, il y avait énormément d'histoires qui étaient liées aux traditions hindoues et du coup forcément liées à la pratique du yoga aujourd'hui, à travers voilà, les postures, le nom qu'on leur donne, etc., j'étais du coup très vite fascinée par le fait de pouvoir faire le lien entre les pratiques du yoga et les histoires qui peuvent nous transmettre des grandes valeurs et des grands messages.
Aujourd'hui, effectivement, on va parler de plusieurs postures de yoga, plusieurs asanas qui ont une symbolique et toute une histoire particulière autour d'elles. Est-ce qu'avant ça, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire déjà asana, tout simplement ?
Oui, complètement. C'est vrai que c'est assez particulier aussi hein, dans la pratique du yoga, le fait qu'on utilise une autre langue, parfois, dans la pratique. Cette langue, c'est le sanskrit, une langue qui est avant tout parlée. Voilà, dans la tradition, en tout cas, la transmission orale, elle est très importante et la façon dont on prononce les choses est très importante. Et pour le mot asana, qui est aujourd'hui utilisé comme un mot pour désigner les postures de yoga, à la base, ce mot, il ne veut tout simplement dire que siège ou que posture assise. On fait référence des asanas, par exemple, dans les Yoga Sutras de Patanjali, un texte qui est très connu dans le monde du yoga. Et pour Patanjali, il faut savoir que voilà, asana, c'est tout simplement une posture qui va nous aider à méditer, qui va voilà, nous placer dans un état de méditation, qui va démarrer justement cette pratique. Et donc, dans ce sens-là, le mot asana est soit la posture assise qu'on prend, soit, en fonction du contexte et en fonction du texte dans lequel on le retrouve, est un mot qui peut faire référence au siège, ou vraiment à la chaise, par exemple, dans laquelle on est toi et moi, assises en ce moment. Donc, voilà. Et donc, petit à petit, évidemment, dans l'histoire du yoga, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le mot asana, ça va être pareil. Petit à petit, on va le voir évoluer, prendre d'autres définitions, jusqu'au moment où le mot asana sera celui qui va désigner la posture du yoga, qui sera peut-être probablement non seulement assise, mais aussi des postures debout, comme les postures du guerrier, les postures de la pince debout, voilà, uttanasana par exemple. Et donc du coup, quand on voit les mots, le nom des postures en sanskrit, ils vont toujours finir en asana.
Et alors tu nous as évoqué les Yoga Sutras de Patanjali. Toi, d'où viennent toutes ces histoires que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les principaux textes autour du yoga dans lesquels tu as puisé toutes ces connaissances, toute ton inspiration ?
Oui, bien sûr. Alors évidemment, il y a plusieurs sources. Ce sont des sources très riches, elles peuvent varier, évidemment. Là, je vais vous raconter trois histoires. Aujourd'hui, on va justement parler de trois histoires qui nous viennent de trois sources différentes. Mais en général, pour faire simple, surtout si vous n'êtes pas familier justement avec les traditions hindoues et tous les textes qui sont liés ou même avec l'histoire du yoga, il y a trois principales sources de toutes ces histoires qu'on va voir et qu'on peut rencontrer, par exemple, dans des ouvrages comme « Le chien tête en bas » de Clémentine Herpicum, un ouvrage qui est très très connu, un très joli livre qui nous raconte justement, qui fait le lien entre les histoires et les postures de ces histoires. Et pour ces trois sources, il y a d'une part les deux grands, ce qu'on appelle les grandes épopées, les deux grandes histoires des traditions hindoues, qui sont le Mahabharata, d'une part, et de l'autre côté, le Ramayana. Alors, pour le Mahabharata, donc pour la toute première et peut-être la plus grande, Mahabharata, c'est Maha, ça veut dire un grand, Bharata, c'est le nom en hindi de l'Inde, donc c'est vraiment la grande histoire de l'Inde. Le Mahabharata est un texte absolument incroyable et énorme, littéralement, parce qu'il fait déjà, au niveau de la longueur, on estime qu'il fait 7 fois la longueur de l'Iliade et l'Odyssée ensemble. Mm-hmm. Et donc, dans ce sens-là, toutes ces deux grandes épopées vont être très comparées souvent avec l'Iliade et l'Odyssée, hein, les grandes épopées qu'on connaît aujourd'hui en Occident. Et donc, dans le Mahabharata, il y a notamment un petit texte que vous connaissez peut-être, qui est la Bhagavad Gita, et qui fait partie justement de cette histoire plus grande, qui nous raconte tout simplement l'histoire, voilà, de deux clans, deux familles, qui s'affrontent dans une grande guerre, la bataille de Kurukshetra. Et dans cette histoire, on va retrouver plein d'autres petites histoires. C'est un petit peu comme une poupée russe où chaque petit passage, en fait, dans cette grande histoire, dans ce grand fil rouge qui est, voilà, la rivalité entre les deux clans d'une même famille, il y a plein de petites histoires. Et donc, il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît aujourd'hui, des traditions hindoues, qui sont racontées au sein du Mahabharata. Donc ça, c'est pour la première partie, enfin, pour le premier texte. Il faut dire qu'en plus, bon, c'est un texte qui a évolué, hein, évidemment, au fil des années, ça a été composé par plusieurs générations, le contenu varie en fonction de la personne qui le raconte, en fonction du temps et du contexte historique, mais en général, on va le placer entre l'année 500 avant notre ère et le 2e ou 3e siècle de notre ère.
D'accord. Et oui, c'est des légendes, mais qui s'appuient en partie sur des faits historiques ou...
Alors, c'est très 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 intéressant, parce que effectivement, le Mahabharata et le Ramayana font partie de ce qu'on appelle les textes Smriti. Et je suis désolée parce que ma prononciation du sanskrit n'est pas parfaite, mais Smriti va faire référence à ce qui a été vu, ce qui a été vécu. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que, même si c'est très difficile, hein, de retrouver les faits historiques, on dit que le Mahabharata s'inspire d'une grande histoire, d'une vraie bataille historique qui a eu lieu dans le nord-ouest de l'Inde, de l'Inde actuelle, et qui a eu lieu probablement vers la fin de ce qu'on appelle la période brahmanique, donc plus ou moins... Alors là, j'ai pas envie de dire des bêtises... Voilà, vers l'année 1500 avant notre ère. Donc historiquement, on pourrait placer cette bataille hein, qui a eu lieu, et à partir de là, ben, voilà, on raconte cette histoire qui évolue évidemment au fil des années, au fil des générations. Mais c'est ces deux grandes histoires, donc ce qu'on appelle les traditions Smriti, sont créées par opposition, enfin pas par opposition, mais on les compare souvent à la tradition des Shruti, ce qui a été révélé. Typiquement, c'est là où on rencontre des textes, ce qui a été entendu, donc révélé. Ce sont des sources qui sont, voilà, révélées par des divinités aux rishis, à des sages, qui reçoivent finalement cette révélation divine directement et la transmettent ensuite. Et ça, du coup, dans ces traditions, on va retrouver typiquement les Védas, les textes des traditions védiques, donc les Samhitas, les Upanishads, voilà. Donc ça nous sert déjà à y voir plus clair entre, effectivement, le Mahabharata et le Ramayana par rapport au Veda, par exemple, ou au Upanishad.
D'accord. Et donc, ce que tu vas nous raconter là, c'est un petit peu issu de tout ça. On retrouve, j'imagine que ça se croise, c'est des récits qui parfois se croisent et qu'on peut mettre en commun.
Oui, complètement. Donc du coup, ça, c'est la première grande source. Enfin, le Mahabharata, c'est vraiment une histoire que j'adore. Hein. Donc forcément, j'en parle beaucoup. L'autre grande épopée, c'est le Ramayana, probablement plus connu dans la culture populaire, en tout cas, que le Mahabharata. Parce que déjà, c'est une histoire qui est beaucoup plus simple que le Mahabharata, parce que c'est une histoire d'amour tragique. Le nombre de personnages est beaucoup moins important que pour le Mahabharata. L'histoire, elle est beaucoup plus linéaire. Et dans le Ramayana, il y a... Donc, on nous raconte la vie du roi Rama. Encore une fois, un roi qui aurait vécu à l'époque védique, et voilà, qui a probablement inspiré justement cette histoire. Et puis je dirais que la troisième grande source de toutes ces histoires qu'on va rencontrer est cet ensemble des textes qu'on appelle les Puranas. Purana qui veut dire ancien, tout simplement, parce que ça fait référence justement à l'ancienneté des enseignements. Et des Puranas, il y en a plein, il y en a beaucoup. Ils sont parfois dédiés, et très souvent dédiés à une divinité, par exemple. On va reconnaître 18 comme faisant partie des Mahapurana, les grandes Puranas ou les Puranas majeurs. Et les Puranas, en tout cas ceux qu'on connaît et qui font partie justement de toutes ces... Enfin, qui forment cette source, on les place entre 500 et 1300 de notre ère, pour le coup. Donc voilà, je dirais que ça, c'est les trois grandes sources des histoires qu'on retrouve, hein, le Mahabharata, le Ramayana et ensuite l'ensemble des Puranas.
D'accord. Et donc, dans ces histoires très anciennes, on trouve des choses qui nous expliquent, qui nous permettent d'éclairer un petit peu différemment certaines postures emblématiques qu'on pratique très régulièrement quand on fait du yoga. Alors toi, tu as choisi d'en sélectionner trois pour nous raconter les trois histoires qui vont autour. Si ça te va, on peut commencer par Vashisthasana, donc la planche sur le côté. Est-ce que tu peux déjà commencer peut-être par nous décrire la posture en elle-même et puis comment on entre dedans avant de nous raconter quelle est l'histoire autour de cette posture ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que, par exemple, la planche sur le côté n'est pas appelée planche sur le côté en sanskrit, mais qui est bien, on la nomme pour faire l'honneur à des personnages qui font partie justement de ces traditions hindoues. Et donc, du coup, cela ne veut pas dire que ces postures existaient depuis la nuit des temps, et ça, ce n'est absolument pas le cas. Mais je trouve que le fait de les appeler comme ça, et de faire honneur à certains personnages des traditions hindoues, ça nous permet peut-être de nous interroger sur le message qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que du coup, c'est intéressant de retrouver les histoires qu'il y a derrière ces noms. Parce que Vashisthasana, donc c'est une planche qui est sur le côté, effectivement. On va donc, en fonction des variations qui existent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, on peut avoir le bras qui est tendu, la main posée sur le sol, et donc on est sur le côté, avec les deux jambes qui sont l'une au-dessus de l'autre. Il y a la variation où le pratiquant peut prendre la jambe. Il existe les deux versions, soit la jambe qui est par-dessus, soit la jambe qui est en dessous, et on tend la jambe en attrapant le pied avec la main. Et donc, du coup, ça donne une planche sur le côté qui est absolument magnifique. Mais voilà, des versions, on va dire, physiques, il en existe beaucoup. Hein. Enfin, si jamais il y a des pratiquantes ou de pratiquants qui souhaitent pratiquer cette posture sur le tapis, vous pouvez aussi bien la faire sur, par exemple, les avant-bras, si l'épaule n'est pas confortable ou le poignet n'est pas confortable. Vous pouvez placer un pied devant la jambe qui est en dessous, ça permet d'équilibrer un tout petit peu plus la posture. Mais dans tous les cas, les versions ou les différentes adaptations de Vashisthasana sont des postures qui finalement font un honneur à un grand sage qui se nommait Vashishtha. Et Vashishtha est un personnage assez intéressant parce que, d'une part, il va être le maître du grand prince et roi Rama, donc notre héros du Ramayana. Et Vashishtha est le symbole vraiment de la sagesse, du pouvoir brahmanique. Alors, les brahmanes, c'est des personnes qui appartiennent à la classe sacerdotale. Et sur Vashishtha, il faut savoir qu'il a une histoire assez intéressante. Il y a des petites anecdotes qui nous racontent que il a une espèce de relation, je dirais une sorte de bromance avec un autre personnage qui devient aussi lui maître de Rama, qui est Vishvamitra. Et ce qui est intéressant de voir dans cette relation entre ces deux personnages, c'est que Vashishtha a toujours été un brahman, donc une personne de la classe sacerdotale. Il a toujours été un grand sage. Et quand il rencontre Vishvamitra, il va avoir en face de lui un roi, quelqu'un qui a une armée, quelqu'un qui appartient au monde, par opposition à Vashishtha qui vit dans la forêt, éloigné de la société. Vishvamitra va représenter vraiment le monde en société. Et quand Vishvamitra rencontre Vashishtha, il va très vite se rendre compte que ce n'est pas lui qui a plus de pouvoir. Que même s'il est le chef d'une grande armée, Vashishtha a encore plus de pouvoir que lui, et le pouvoir du Brahman est supérieur à celui de Vishvamitra. Donc vont commencer des petits affrontements entre ces deux personnages jusqu'au moment où Vishvamitra va reconnaître le pouvoir et la sagesse de Vashishtha, et c'est quand Vishvamitra reconnaît Vashishtha que Vashishtha reconnaît à son tour Vishvamitra. Alors, l'histoire, elle est beaucoup plus longue que ça. Il y a, au milieu de ça, il y a une vache de l'abondance qui est volée, qui joue un rôle aussi dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant de voir dans l'histoire de Vashishtha, c'est que Vashishtha, dans toute cette histoire et dans toute cette relation avec Vishvamitra, il reste quand même beaucoup dans l'équanimité. il est très stable, en fait, malgré la jalousie, malgré les différentes attaques de Vishvamitra. Vashishta reste quand même, pardonnez-moi pour l'anachronisme, très stoïque. Et quand on parle d'équanimité, c'est voilà, le fait de ne pas s'être indifférent, parce que ce n'est pas vraiment ça, mais ne pas s'être perturbé par les vicissitudes de la vie. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on reste stable. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que la planche sur le côté, que vous soyez un pratiquant avancé ou pas, ou en tout cas pour moi, ça reste une posture qui est quand même assez challengeante. Enfin, d'un point de vue physique, on doit quand même non seulement engager bien notre centre, et dans ce sens-là, donc, du coup, c'est intéressant de rappeler que Vashishta est quelqu'un de très centré. Donc, il faut engager ce centre, il faut en plus rester en équilibre, et si on veut aller plus loin, attraper une jambe ou une autre. Et donc, dans ce sens-là, c'est intéressant de voir que cette posture qui fait honneur à ce grand sage nous invite à développer ça, nous invite à développer, à cultiver cette équanimité, à cultiver cette stabilité, même si parfois il y aura des jours où on n'aura peut-être pas l'énergie, où il y aura peut-être, comme tout hein, dans l'équilibre, il y a peut-être des journées où il n'y a pas forcément beaucoup d'équilibre.
Oui, bien, c'est comme dans la vie, il y a des jours où ça va tanguer plus fort que d'autres.
C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, ça nous incite, et moi particulièrement, cette posture, elle nous invite à être très patient. Vishvamitra finalement, qui est voilà, le rival au début de Vashishta, il est quand même très chiant, enfin il faut le dire, il vole d'abord la vache de Vashishta, il va ensuite lui faire la guerre plein de fois, etc. Et Vashishta malgré tout, il reste très patient. Donc, de développer, de penser à cette posture et de penser à tout ce qu'elle peut nous enseigner, je trouve que ça donne une autre dimension à cette posture de la planche qui est peut-être pas notre préférée sur le tapis quand on la pratique.
C'est ça, on essaiera de penser à cette belle histoire la prochaine fois qu'on sera en train de souffrir, avoir mal au bras, essayer de tenir la posture. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir le contexte, c'est vrai que ça apporte un autre éclairage sur les valeurs qui sont mises en avant à travers une posture aussi. Alors, il y en a une autre dont tu avais envie de nous parler tout particulièrement, c'est celle de Garudasana, donc la posture de l'aigle.
Oui, alors, donc pour parler de la posture de l'aigle et de Garudasana, il faut se demander qui est Garuda. Et donc, pour cela, on va peut-être aller dans un royaume un petit peu plus fantastique que pour l'histoire de Vashishta, parce que Garuda n'est autre que la monture de Vishnu. Donc, Vishnu est une divinité qui fait partie de la Tridevi ou de la Trimurti, de la Trinité divine. Et Vishnu a toujours ce rôle de préserver le monde. Voilà, il y a trois grandes étapes dans l'existence du monde. Il y a la création, la préservation et ensuite la destruction. Et donc, Vishnu représente la préservation. On dit que, typiquement, quand le monde est en péril, Vishnu va descendre sur Terre sous la forme d'un avatar. Et d'ailleurs, le mot avatar, c'est un mot en sanskrit qui veut dire tout simplement descente, pour aider le monde pour rétablir à nouveau l'ordre de l'univers. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que sa monture, comme toutes les divinités qui ont une monture, est une créature qui est à moitié aigle, à moitié humain. Et cette monture s'appelle donc Garuda. Si on va aller voir l'histoire de Garuda, il y en a évidemment, il y en a mille, et même toutes les histoires que je vous raconte, il y a plein de versions hein, selon la tradition qui la raconte, selon le contexte ou même l'époque dans laquelle on va raconter une histoire. Mais la version de l'histoire de Garuda que j'aime bien nous raconte que Garuda a une mère, Vinata, qui a été prise au piège par des serpents. Elle aimait beaucoup en parier, elle aimait beaucoup jouer. Et donc, elle perd un pari, elle devient l'esclave des serpents, qu'on appelle, enfin, des créatures à la forme de serpents, qui sont des créatures magiques et qu'on appelle des nagas. Les fans de Harry Potter pourront faire peut-être le lien avec Nagini. Moi, je suis sûre que ça a été l'inspiration. Oui. Mais bon, pour fermer la petite parenthèse, la mère de Garuda est donc esclave des nagas, et donc esclave de ces serpents, et Garuda va devoir la libérer. Donc il va aller voir les serpents pour négocier justement la liberté de sa mère, et les serpents ne veulent qu'une chose, comme beaucoup de tous ces êtres fantastiques, ils souhaitent avoir l'élixir d'immortalité, l'Amrita. Il se trouve que pour obtenir cet élixir d'immortalité, ce n'est pas si simple comme on peut s'en douter. Hein. L'Amrita est bien gardée dans le paradis, dans la demeure des divinités. Et en plus, pour l'obtenir, il faut passer 3 obstacles. Donc, Garuda va évidemment demander la permission aux Deva. Il va leur raconter sa situation. Il va leur dire qu'il souhaite prendre l'Amrita, prêter pour faire croire au Naga, au serpent, qu'il va leur donner l'Amrita pour pouvoir libérer sa mère, mais en leur promettant justement que l'Amrita ne tombera pas dans les mauvaises mains. Bref, donc les divinités acceptent, Garuda se lance donc dans cette aventure pour obtenir l'Amrita, et pour obtenir cet élixir d'immortalité, il faut passer 3 épreuves, 3 obstacles. Le premier obstacle consiste à traverser un anneau de feu. Pour passer ce premier obstacle, Garuda avale l'eau de plein de rivières et ensuite va éteindre le feu avec sa bouche. Donc très bien, première épreuve, premier obstacle, ça passe très bien. Deuxième obstacle, il faut passer par une porte qui est absolument minuscule, qui est entourée par des vents de scie qui circulent. Donc je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est comme un petit truc, vraiment un tout petite serrure presque de porte. Et à l'intérieur, on a plein de vents de scie qui tournent et tournent. Donc un petit peu difficile. Mais bon, heureusement, Garuda a des pouvoirs magiques. Et même s'il s'agit d'une créature complètement majestueuse et mi-aigle et mi-homme, il a la possibilité de devenir très petit. Donc, il va se faire tout petit pour pouvoir traverser la porte. Et ensuite, troisième étape, 2 serpents venimeux qu'il va combattre très, très facilement. Et c'est comme ça qu'il va attraper l'Amrita, qu'il va faire croire au Naga qu'il l'a, qu'il va leur donner cet élixir d'immortalité. Et je vous passe les détails, il libère sa mère, il retourne l'Amrita au Deva, aux divinités. Et c'est comme ça que Garuda sauve sa mère. Alors, quel est le lien entre donc cette histoire et la posture ?
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la forme de cette posture de l'aigle ?
Mais oui, mais en fait, c'est ça. Moi, et c'est une des postures justement qui m'a... Ça fait peut-être parmi des premières postures qui m'ont intriguée quand j'ai fait le lien entre qui était justement derrière le nom et le nom de la posture, parce que la posture de Garuda... si vous la cherchez ou si vous l'avez déjà pratiquée sur votre tapis, est une posture qui, pour moi, ne ressemble absolument pas à une aigle. On ne voit pas les...
je voyais... Je suis d'accord avec toi.
C'est pas évident. Moi, je me disais, mais l'aigle, elle est où ? Parce que pour être dans la posture de Garudasana, c'est une posture déjà en équilibre sur un pied, où les deux jambes, il y a une jambe qui enlace une autre, plusieurs fois si c'est possible, mais bon, au moins, il y a les jambes qui sont croisées. Ensuite, on a les bras qui sont également entrelacés, avec les paumes de main qui s'entrelacent plus ou moins. Et l'idée, ça va être d'aller chercher, de joindre les coudes avec nos genoux.
Voilà, tout ça. Donc, en fait, debout, en équilibre sur sa jambe.
Complètement. Donc, en fait, on a presque l'impression que cette posture, qui fait référence quand même à un personnage qui est mi-homme, mi-aigle, nous invite à se faire comme une petite boule. Nous invite à être très petits. Et c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai lu justement cette histoire autour de Garuda et comment il a sauvé sa mère, que je me suis dit, peut-être que ça fait référence à ce deuxième obstacle où Garuda doit se faire tout petit pour traverser l'anneau avec les dents de scie qui bougent dans tous les sens, qui tournent. Et c'est assez intéressant parce que quand on parle de l'aigle, quand on parle de Garuda, quand on parle de tous ces personnages, il y a cette notion de pouvoir ou de puissance qui nous vient. Et en quelque sorte, je trouve que c'est assez intéressant de voir que ce qui pourrait faire hommage à Garuda dans la posture qu'on connaît comme Garudasana, c'est cette notion que la puissance, elle n'est pas toujours dans la démonstration la plus évidente.
Oui, que parfois, que là, c'est très... pas avec ses ailes déployées. Et si,
exactement.
Quand il y a besoin, il faut savoir replier ses ailes, se replier sur soi pour éventuellement passer l'obstacle.
Exactement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris également. Et je me suis dit, c'est super intéressant. En fait, c'est ça. Peut-être que la sagesse et peut-être que notre puissance, parfois, elle est dans cette capacité que nous avons à effectivement aller sur soi, aller vers... pas de nous faire petits, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se laisser abattre par les autres ou par tout ce qui peut nous arriver, mais cette capacité peut-être de repli pour peut-être mieux observer ce qui se passe à l'intérieur, être plus en connexion avec, pas avec le monde extérieur, ne pas être dans le déploiement, mais être peut-être dans la modestie ou... Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent nous enseigner, hein. Enfin, qui peuvent faire écho, en fait, avec cette histoire et cette posture où on décide de ne pas montrer l'aigle avec les selles déployées, mais plutôt l'aigle au moment où elle devient justement plus petite.
D'accord, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de postures de yoga d'ailleurs. Il y a des postures très en expansion, postures d'ouverture très, très amples, et puis il y a aussi pas mal de postures de repli qui vont avoir chacune leur utilité à des moments différents.
Complètement. Et c'est aussi tout le paradoxe, et je trouve que c'est une des choses qui fait que l'histoire, les philosophies ou la pratique du yoga est quelque chose de très intrigant et très beau, c'est que ça nous invite à vivre avec ces paradoxes. Ça nous invite à vivre avec ces contraires, ces choses qui ne peuvent pas paraître évidentes ou pas forcément liées, parce que opposées. Et en fait, on se rend compte que non, c'est justement dans le paradoxe qu'il y a l'enseignement, qu'il y a la sagesse, qu'il y a tout un champ de possibilités qui peuvent nous aider à grandir. Tout simplement.
Et alors, pour terminer, tu avais envie de nous raconter une troisième histoire, celle qui est autour de Ardha Matsyendrasana, donc c'est la demi-torsion assise, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement. Donc, Ardha, c'est un mot qui désigne la moitié ou demi. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de postures. Par exemple, Ardha Uttanasana, demi Uttanasana, c'est la moitié de la pince debout. On a le dos parallèle au sol, on a la demi-lune, Andhra Chandrasana. Donc, Chandra, c'est la divinité liée à la lune, et donc demi-lune. Et effectivement, il y a cette posture qu'on appelle Ardha Matsyendrasana, qui est... Donc, la demi-torsion, c'est une demi-torsion dans le sens où physiquement, on ne peut pas se tourner.
180 degrés, c'est compliqué quand même pour la colonne vertébrale.
Voilà, c'est ça. Disons qu'il y a quelques limites physiques à une torsion qui serait entière. Mais Matsyendra, donc la posture de Matsyendra, est une posture qui fait référence à un sage qui est considéré pour beaucoup de traditions le premier Hatha Yogi, le premier professeur de Hatha Yoga. Et Matsyendra veut dire le seigneur des poissons. D'ailleurs, c'est très souvent, on va peut-être parfois confondre Ardha Matsyendrasana avec Matsyasana. Et c'est là où on peut retrouver la même racine, parce que Matsya veut dire poisson. Et donc, Matsyasana, c'est la posture du poisson. Voilà, Ardha Matsyendrasana, donc c'est le seigneur de poissons. Et pour cette histoire, il faut aller voir justement du côté des traditions, du Hatha Yoga, donc des pratiques qui vont arriver bien après le Mahabharata, bien après le Ramayana, mais qui sont quand même intéressantes parce que dans les traditions des Hatha Yoga, on a ce qu'on appelle les traditions des Siddhis, des personnes qui sont des pratiquants, qui sont extrêmement sages, qui obtiennent des siddhis, des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, et qui sont nommés les siddhas. Et un des siddhas, qui est reconnu dans les traditions de Hatha Yoga, probablement, enfin pour beaucoup de traditions le premier, c'est Matsyendra, qui était par ailleurs le maître de Gorakhnath. Donc Matsyendra, l'histoire nous raconte, même si on ne sait pas grand-chose sur ces personnages... Sur les faits historiques, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé vraiment, mais les légendes nous rapportent déjà pas mal de choses par rapport au message, par rapport à tout ce qu'on veut garder, on va dire, dans l'essence. Et la légende de Matsyendra nous dit que il y a très 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 longtemps, il était une fois Matsyendra, qui ne portait pas encore ce prénom, qui est un petit bébé qui est né sous une mauvaise étoile. Et quand les bébés naissent dans une mauvaise étoile, dans ce monde et dans ce contexte, on ne veut pas d'eux. Donc, Matsyendra, quand il était tout bébé et comme il est né sous une mauvaise étoile, on le jette dans une rivière, dans un fleuve. Et ce bébé se fait manger par un poisson. Et donc, ce petit poisson ne tue pas le bébé qui est à l'intérieur, ce qui permet au bébé de survivre et qui lui permet aussi par ailleurs d'explorer plein de mondes parce que le poisson va nager un petit peu partout. Et un jour, il se trouve que pendant qu'il nageait, Shiva et Parvati étaient en train de discuter. Donc Shiva et Parvati se retrouvent à côté du fleuve et Shiva, comme d'habitude, il veut apprendre à Parvati, qui est son épouse, plein de choses. Et il veut lui transmettre plein d'enseignements. Et Parvati, comme souvent dans les histoires, elle ne veut rien entendre, elle veut juste, elle a juste envie de jouer, de danser, de faire d'autres choses, enfin tout sauf méditer et apprendre. Mais bon, Shiva quand même continue ses enseignements, il parle, et ce petit poisson qui entend le dieu Shiva parler, il se dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc intéressant ». Donc il va, moi j'aime bien imaginer hein, ce poisson écouter, passer à côté de Shiva, écouter ses paroles et se dire « Ah tiens, c'est intéressant, je vais faire un demi-tour et je vais voir ce qu'il dit ». Et donc le petit poisson commence à écouter Shiva. Shiva, sans se rendre compte, devient ainsi le premier professeur de yoga pour ce petit poisson. Parce qu'évidemment, dans cette histoire, Shiva est en train d'enseigner le yoga. Et le poisson, ainsi, reçoit, et par extension, le petit bébé qui est en train de... qui est maintenant le petit enfant, je ne sais pas, il y a plein d'années qui s'écoulent entre les différents événements. Il entend aussi tout ce que Shiva a envie de dire et tout ce que Shiva dit sur le yoga. Donc, quand le bébé devient un adulte, il va pouvoir sortir du poisson et ainsi transmettre tous les enseignements de yoga qu'il a appris quand il était à l'intérieur de Shiva. Ça, c'est une des histoires qu'il nous raconte. Et c'est comme ça que donc il devient le sage qui est connu comme Matsyendra, qui est le seigneur des poissons. Et c'est comme ça que Matsyendra devient le premier humain professeur de yoga, le deuxième si on suit la ligne. Voilà, après Shiva, le deuxième professeur de yoga. Pour moi, cette relation, même si voilà, ça c'est mon interprétation, et ça c'est... Honnêtement, j'ai pas trouvé de lien entre les deux histoires, mais justement, moi, c'est... Là où moi j'aime bien faire le rapprochement entre l'histoire et la posture, c'est que justement, ce poisson, il aurait pu passer à côté des paroles de Shiva, il aurait pu ne pas faire demi-tour et continuer son chemin. Et c'est parce qu'il est capable de se tourner et de prendre un petit peu de recul et d'accepter d'écouter Shiva, qu'il apprend énormément de choses. Et c'est pour ça que pour moi, cette posture nous invite à nous retourner, être capable aussi parfois de se tourner vers le passé, d'apprendre et de voir peut-être tout ce chemin parcouru, mais ça nous apprend beaucoup de choses. Évidemment, ce n'est pas la seule histoire, il y en a d'autres qui racontent plutôt des histoires de Shiva qui tournent pour regarder un lac où il y a plein de poissons. Mais moi, j'aime bien cette histoire parce que c'est le poisson qui est vraiment au cœur de l'action,
oui.
Finalement.
Oui, c'est une jolie histoire. Puis oui, c'est l'idée que dans cette posture de la torsion, effectivement, on ne regarde pas droit devant soi, on va plutôt chercher à regarder derrière soi dans la mesure du possible. Et ouais, c'est, je trouve que c'est intéressant, toi, la métaphore que tu fais, enfin, l'histoire que tu en tires et la symbolique. C'est vrai, on ne peut pas toujours foncer tout droit en regardant droit devant soi.
Oui, non, complètement. Surtout que très souvent, on va nous dire, par exemple, le présent, c'est précieux, il faut être dans le moment présent. Et c'est vrai, pour être dans cet état de yoga ou de contentement, il faut aussi être dans le présent et vivre pleinement le présent. Mais moi, parfois, je trouve que ça a quand même sa valeur. Enfin, si on se souvient de notre passé, ce n'est pas pour rien. Et si on a parfois cette capacité de se tourner, de prendre un petit peu de recul, d'apprendre sur notre passé, on peut aussi avancer pour soit ne pas répéter ce qu'on a déjà fait dans le passé, et donc du coup construire à partir de là des nouveaux chemins qui nous amèneront plus loin, soit au moins de prendre un petit moment pour se dire « Waouh, j'ai parcouru tout ce chemin ». Dans la pratique du yoga, parfois on ne se rend pas compte si ça fait un petit moment, enfin... Même si ça fait quelques semaines que vous avez commencé votre pratique de yoga, il y a des fois où on donne pour acquis notre pratique de yoga et on se dit « ouais, la posture de l'arbre, c'est très facile » ou peu importe, hein, n'importe quel équilibre ou je ne sais pas, une posture qui n'est pas challengeante pour nous. Mais on ne se souvient pas qu'au début, cette posture était très difficile pour nous. Et donc parfois, c'est bien aussi de se dire « ah, voilà le chemin que j'ai parcouru ». Dans cette posture où avant, j'avais vraiment du mal à être présente, j'avais du mal à avoir un discours, par exemple, pas violent envers moi, bah, aujourd'hui, j'y arrive. Et c'est bien aussi de se donner un gros câlin. voilà.
Oui, puis c'est intéressant du coup d'avoir, comme tu le dis bien, c'est ton interprétation à toi, et puis il y en a d'autres hein, autour de cette même histoire et de ce nom de posture, mais en fait chacun pourra effectivement piocher, faire travailler son imaginaire aussi pour mettre en relation toutes ces légendes, toutes ces belles histoires avec la forme physique des postures.
Oui, complètement, complètement. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore raconter des histoires, parce qu'elles nous permettent aussi de les façonner. Et elles ont cette capacité de pouvoir être malléables et de nous transmettre des messages qui peut-être résonnent avec nous. On peut, s'il y a des professeurs de yoga qui nous écoutent, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie d'une des choses qu'on peut faire, une des choses plus faciles qu'on peut faire quand on veut transmettre la philosophie du yoga ou les philosophies du yoga, parce qu'on peut s'approprier justement ces histoires. Et ensuite dire, ben voilà, ça c'est l'histoire et la version de l'histoire que j'aime. Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'en tire ? Qu'est-ce qui résonne à moi avec cette histoire ? Et à chaque fois que je raconte toutes ces histoires dans un cours ou dans le cadre d'une formation, par exemple, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a énormément d'interprétations. À une seule histoire, il y aura des personnes qui vont retenir peut-être plus la relation entre Shiva et Parvati pour la relation du petit poisson, qui vont... retenir plutôt comment il a surmonté cet obstacle et ce petit enfant qui est né sous une mauvaise étoile est devenu un grand sage. Il y a cette question de se tourner, mais en fait, à chaque fois, il y a plein de choses. Les chemins sont infinis. Il y a plein de possibilités d'interprétation pour toutes ces histoires et toutes les interprétations seront aussi légitimes.
Oui, tout à fait. Ben merci en tout cas, Laura, pour ton éclairage à toi sur ces trois histoires-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de soit de pratiquer avec toi, soit peut-être d'en apprendre plus sur cette philosophie du yoga ?
Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, @yoginilaurita, donc L-A-U-R-I-T-A. Et sinon, ben j'ai un podcast où je raconte justement des histoires. Je raconte l'histoire du Mahabharata semaine par semaine. Ça s'appelle Histoire de yoga, tout simplement. Chaque semaine, des petits épisodes entre 7 et 15 minutes pour vous raconter une petite histoire et tout ce que ça peut nous apprendre. Et sinon, j'ai l'honneur de participer dans certaines formations pour les professeurs de yoga. J'ai ma propre formation aussi en ligne qui est vraiment un 30 heures certifiant autour de l'histoire et des philosophies du yoga. Et vous savez toutes mes informations sur Instagram ou sur mon site internet. Si vous tapez Laura Harley, comme les motos mais sans le H, vous pourrez me retrouver très facilement.
D'accord, et ben ouais, super, ça pourra permettre à ceux à qui ça a mis l'eau à la bouche, ces petits extraits, d'en savoir plus. Ben merci beaucoup à toi, Laura.
Merci infiniment, Laura.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, c'était le dernier avant une longue pause estivale. Yoga et nous devraient revenir à la rentrée, mais peut-être sous un format un petit peu différent, j'y réfléchis encore. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram @yogaenupodcast et à me dire s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Bel été !